Cosa de sa région au temps des Qatars. C'est la nouvelle et prochaine conférence qui nous est proposée pour ce samedi par l'Université populaire de Cossène. Ce sera à 16h30 au Récollé et animé par Jordi Passera. Bonjour.
Bonjour à vous, oui.
Vous êtes président de la Société archéologique et historique de Tarn-et-Garonne, membre titulaire de l'Académie de Montauban et par ailleurs curé dans votre paroisse. Alors quand on parle des Qatars, on parle de l'hérésie albigeoise, de l'albigéisme, on est vers quand ?
Eh bien, on est tout à fait au XIIIe siècle à peu près, c'est-à-dire que le mouvement des Qatars, il couvre une période de 100 ans à peu près, qui va de 1150 à 1300. Mais le moment où nous avons le plus d'informations et le plus de sources, c'est justement autour des années 1200 jusqu'à 1300, là, ce long siècle du XIIIe siècle, et qui est marqué justement par un premier épisode qu'on appelle la croisade albigeoise. Il faut que j'explique ce mot albigeois qui est employé pour désigner les Qatars. C'est-à-dire que quand on a travaillé sur ces questions et qu'on a fait l'histoire des Qatars au XIXe siècle, on s'est aperçu qu'il y en avait beaucoup dans la région d'Albi. Et pendant longtemps, dans les documents du Moyen-Âge, aussi, il y a une certaine confusion. Et c'est synonyme. C'est-à-dire, quand on dit albigeois, c'est synonyme de Qatars, ce que nous appelons les Qatars, c'est-à-dire un mouvement religieux qui s'est constitué, donc, en dehors de l'Église catholique, et qui a contesté l'Église catholique. Et la plupart des livres qui ont été écrits au XIXe siècle parlent des albigeois. Et, par exemple, on parle de la chanson de la croisade albigeoise. Et cette croisade albigeoise, elle s'est déroulée pendant 20 ans, 1209-1229, et justement dans notre région, c'est-à-dire que nous avons le siège de Saint-Antonin, nous avons les armées qui passent de Simon de Montfort, ravager le Quercy en direction de Cahors, de Rocamadour. On le voit passer aussi à Montauban, il fait un siège de Montauban au mois de septembre. Donc je parlerai déjà de, si vous voulez, des seigneurs de Caussade défendant leur territoire au moment de cette croisade. Voilà, le premier épisode de la croisade qui dure ne que 20 ans. Et après, il y a un épisode beaucoup plus dur, au XIIIe siècle, c'est l'Inquisition. C'est-à-dire que lorsque la croisade est terminée, à partir des années 1230, on voit apparaître un mouvement, enfin une institution, il faut dire, une institution qui se met en place de la part de l'Église pour ficher, attaquer, poursuivre et dénombrer, en les présentant devant un tribunal, tous ceux qui sont susceptibles d'être adeptes de ce mouvement. Et c'est par là qu'on arrive à avoir des sources très intéressantes sur ce qui s'est passé donc, entre 1200, on peut dire, et jusque pratiquement 1300. Enfin, la partie de ce dont je vais parler le plus, c'est les années 1250 environ. Voilà.
Alors, grâce au registre d'inquisition que vous avez pu
procurer. Voilà, les fameux registres d'inquisition. C'est-à-dire que parmi les sources que nous utilisons, il y a des récits, de chroniques, de batailles, si vous voulez, de guerre, mais il y a aussi des documents des évêques, puisque nous étions dans le dossier de Cahors à l'époque, et les évêques de Cahors menaient la lutte contre les hérétiques. Et donc, nous avons des lettres d'évêques, nous avons des documents de ce type-là. Mais surtout, on a la tournée d'un inquisiteur, qui s'appelait Pierre Célia, qui a été mandaté par l'Église, et qui était dominicain, et qui est passé donc, dans cette région de Montauban, de Moissac, de Montpezat de Quercy, de Lozère, plus loin, jusqu'à Cahors. Et grâce à lui, nous connaissons à peu près les familles, le nombre de gens, donc une vingtaine, une trentaine, une quarantaine, avec des noms très précis. Et alors ce qui est intéressant, c'est à la fois les noms de familles, qui montrent par exemple que la plupart des seigneurs de notre région étaient gagnés à l'hérésie. Alors on ne sait pas s'ils étaient défenseurs de l'hérésie pour des raisons religieuses, ou s'ils étaient aussi adeptes d'un soutien contre l'Église, et parce qu'ils défendaient leur seigneur. Et il défendait surtout le comte de Toulouse, puisque une des conséquences de cette guerre, ça a été de priver le comte de Toulouse de sa seigneurie sur l'Occitanie, si vous voulez, sur notre pays indépendant, et de nous rattacher progressivement au royaume de France. Et donc, le soutien qu'apportaient les seigneurs de Caussade, par exemple, aux hérétiques, il était en même temps un soutien très fort à leur comte, à leur suzerain, qui est le grand Raymond VI de Toulouse, qui a tout fait pour essayer d'éviter justement les poursuites de l'Église et qui a soutenu les hérétiques tant qu'il a pu. Voyez. Alors donc, il y a à la fois un côté politique et un côté religieux dans cette histoire. Voilà.
Alors avant de parler de l'extrêmement local, hein, avec des noms de fermes très précises et puis peut-être des futurs lieux de mémoire. Hein, avec
c'est comme ça que je les appelle, parce que je ne suis pas le seul, je vous dirai d'où ça vient.
Le catharisme, donc l'hérésie albigeoise, ça sort d'où? C'est quoi, en fait?
Alors, autrefois, il y avait une explication très simple. On disait, c'est une hérésie qui a été amenée des croisades, par les croisades, depuis l'Orient, et on avait entendu parler des bogomiles dans l'Empire byzantin, et on disait, ça remonte même au manichéen, qui est une vieille hérésie qu'on voit apparaître au VIe siècle en Perse. En fait, aujourd'hui, on a une vision tout à fait différente. Il semble que ce soit des mouvements de contestation religieux qui ont apparu un petit peu dans toute l'Europe, parce que le mouvement cathare, ce n'est pas lié uniquement à l'Occitanie. Vous en avez en Italie, vous en avez en Catalogne, vous en avez en Flandre, en Allemagne, partout, hein, c'est-à-dire que et en Champagne, en France. Donc, c'est un mouvement qui apparaît dans toute l'Europe et qui est quoi? Eh bien, c'est tout simplement un peu les ancêtres des protestants, c'est-à-dire des gens qui, en s'appuyant sur les Écritures, en revenant au texte de la Bible, contestent peut-être le pouvoir trop fort de l'Église de l'époque, la vie peut-être pas très exemplaire des clercs qui étaient chargés de propager la parole de Dieu, et qui vont donc contester et essayer de vivre selon la pureté évangélique. Et donc, vous voyez, ils reviennent à l'Évangile, et ils essaient de vivre dans la pauvreté, dans la simplicité, et de prêcher. Alors ça, c'est original. C'est-à-dire que nous avons des hommes et des femmes qui demandent le droit de prêcher, ce qui est absolument interdit, est réservé aux clercs dans l'Église catholique, d'autant plus que l'Église catholique a une domination technique extraordinaire, c'est qu'elle a une langue qu'elle impose, le latin. Et le latin, c'est la langue des savants, c'est la langue des clercs, de ceux qui font des études, et le peuple ne peut pas le comprendre. Tandis que les hérétiques, ce qui va faire leur force, c'est qu'ils vont traduire les Écritures dans la langue du pays, c'est-à-dire l'occitan, et qui vont avoir une adhésion beaucoup plus forte, et des gens qui vont les suivre plus facilement. Voilà. C'est ça le mouvement. Et alors après, bon, ils se constituent en église, avec des représentants, hein, c'est-à-dire des évêques, nous avons le diocèse de Qatar, avec des diacres. Alors par exemple, je vous ferai connaître, dans la conférence, un diacre de Kossad, c'est assez rare. Nous avons un dignitaire de l'église de Qatar, qui avait son siège à Kossad, et qui avait un grand rayonnement dans le Quercy, voilà. Guillaume de Kossad, il faisait partie sûrement de la famille des seigneurs, et il s'était converti, et il avait fait le choix d'être un religieux, puisqu'il avait reçu la consécration à travers un rite très connu, dont je parlerai, qui est le fameux consolamentum, c'est-à-dire c'était l'ordination et le baptême en même temps chez les cathares.
Voilà. Oui, ça se ressemble énormément. Alors oui, consolamentum.
Consolamentum, consolation, ça veut dire consolament.
À la place du baptême, mais sinon c'est quand même
à la place du baptême, pareil. Okay. Ou c'est la définition pour eux de ce qu'on appelle le baptême d'esprit. C'est-à-dire, non pas le baptême avec de l'eau, puisqu'ils étaient contre les représentations matérielles et le monde terrestre pour eux était mauvais et porteur du diable, en quelque sorte, et du mal. Donc, si on voulait recevoir le baptême, ce n'était pas en recevant de l'eau sur la tête, mais c'est en recevant l'imposition de la main ou du livre de l'Évangile sur vous qui vous faisait passer la grâce de Dieu par le Saint-Esprit. Voilà. C'est comme ça qu'on explique le consolamentum.
On saura tout sur Kossad et sa région au temps des cathares lors de la conférence que vous proposez. Jordi Passera, ce sera donc ce samedi au Récollé à Kossad, voilà, grâce à l'Université populaire. On en reparle tout de suite après la musique. De retour dans ce mag du Tarn-et-Garonne à propos de la prochaine conférence de l'Université populaire de Kossad, ce sera ce samedi à 16h30 au Récollé. Une conférence autour de Kossad et sa région au temps des cathares, animée par Jordi Passera, qui est, on le redit, président de la Société archéologique et historique de Tarn-et-Garonne et membre titulaire de l'Académie de Montauban, décidément. Vous avez des sources extrêmement précises, on parlait du registre de l'Inquisition. C'est quoi vos sources, Jordi Passera?
Ah, les sources habituelles. Mais non, je vous ai dit que c'était à la fois les récits des chroniqueurs de l'époque, les registres d'inquisition. C'est vraiment la source la plus importante, parce que dans les registres d'inquisition, il y avait des milliers de noms et de noms de personnes et de noms de lieux. Et alors, ce qui est assez impressionnant, donc, ce qui va être une des révélations, je pense, pour la région de Kossad, bon, c'est connu depuis longtemps des chercheurs comme moi, mais le grand public ne le connaît peut-être pas, c'est que quand on parle du pays cathare, les gens ont spontanément les châteaux cathares, c'est-à-dire qu'ils pensent à Montségur, par exemple, à tous les grands châteaux que l'on va visiter dans l'Ariège ou dans l'Aude, et qui ont été des lieux de résistance extraordinaires, et qui sont aujourd'hui des citadelles, des forteresses, au bout d'un piton, et qu'on va admirer. Sauf que les vrais lieux où ont vécu peut-être les Cathares, ce sont de simples maisons, c'est-à-dire des demeures ordinaires, des fermes de la campagne, aussi bien que des maisons de ville, puisque c'est les bons hommes et les bonnes femmes, comme on les appelait à l'époque, vivaient tout simplement dans leur maison. C'est là qu'ils faisaient leur culte, puisqu'ils n'avaient pas de lieu de culte public, comme les premiers chrétiens. Ils se réunissaient dans leur maison pour écouter le prêche, pour donner les sacrements. Quelquefois, même, ils étaient obligés, à cause de l'Inquisition, de se cacher. Et pour se cacher, il y avait deux manières de se cacher. Soit on montait dans le grenier, c'est-à-dire qu'on se cachait dans les combles de la maison, et on, comme à l'époque de la Résistance, pendant la dernière guerre, on cachait les gens dans les caves, dans les greniers, et donc c'est là qu'ils se réunissaient, qu'ils faisaient leurs prières. Soit on se cachait aussi dans les écuries. On a le cas d'un Ponce Grimoa, justement, qui était baille et sénéchal du Quercy, qui exerçait dans la région de Caussade, qui a été consacré, qui a reçu le consolamentum, dans une écurie du côté de la ville de Dieu. Voilà, on a plein de... Alors, ce qui est intéressant, c'est que les registres d'Inquisition nous livrent des tranches de vie, c'est-à-dire qu'ils nous reconstituent, malgré eux, la vie de ces gens-là, qui étaient traqués, qui étaient victimes, qui étaient condamnés, qui étaient spoliés, qui étaient exilés, qui souffraient beaucoup, mais il y a beaucoup de souffrance derrière tout ça. Et ce sont des familles qui ont été démantelées, mais des lieux, alors qui deviennent des lieux de mémoire, parce que là, vous pouvez dire, ont vécu, comme on le fait pour les protestants au XVIIe siècle, ou comme on le fait pour les juifs au XXe siècle, là ont vécu des gens qui ont été arrêtés par la Gestapo de l'époque, si vous voulez, et qui ont été déportés. Et c'est intéressant de dire, il y en a à Caussade, il y en a à Puy-la-Roque, il y en a à Montpensier de Quercy, il y en a partout. Voilà.
Donc des lieux, des maisons, là, encore actuellement.
Oui, par exemple, le Soulier, près de Caussade, à Puy-la-Roque, j'ai plusieurs noms de lieux aussi, je ne les ai pas en tête maintenant, et quand je vais repréparer ma conférence, je vais les retrouver. Il y a plein qu'on retrouve sur la carte d'état-major, c'est-à-dire, ce qui est assez amusant aussi, il y a mon ami Burgan qui a fait un joli livre sur la topographie et explication du nom de lieu de Caussade, mais vous apercevez que autant nos noms de famille que nous portons aujourd'hui, parce que vous allez voir les noms qu'ils ont à l'époque, mais c'est les noms que nous portons aujourd'hui quand on s'appelle Donadieu, Fauré, etc., ou Fabre, mais c'est des noms occitans communs qu'on retrouve à toutes les époques et qui étaient très courants à l'époque, et les noms de lieux, c'est pareil, c'est-à-dire que le nom du Soulier, par exemple, bon, c'est un nom de lieu classique qu'on va retrouver dans les fermes autour de notre région. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que les noms de nos fermes que nous portons aujourd'hui à Mirabel, à Caussade, à Puy-la-Roque ou d'autres endroits autour de Caussade ou à Sept-Fonds, eh bien, ce sont des noms qui ne datent pas d'aujourd'hui. Ils sont dans ces textes-là. Nous les trouvons déjà sur la carte, identifiés, depuis le XIIIe siècle. C'est impressionnant, hein?
Et alors, on parle du XIIIe siècle, autant donc des Cathares sur Caussade et sa région, mais vous le disiez en première partie de ce mag, c'est quelque chose d'européen, presque.
Alors le phénomène Cathare, c'est un phénomène dont je vous l'ai dit, qui démarre plus tôt, c'est-à-dire aux années 1100, par là, 1150, et qui apparaît avec la même vivacité, la même intensité, et les mêmes signes, c'est-à-dire que ce que je vous disais tout à l'heure, le fait qu'il y ait une église organisée, le fait qu'il y ait les mêmes rites, qu'il y ait les mêmes prières, qu'il y ait les mêmes documents, etc. Donc on le retrouve partout dans toute l'Europe, et il est poursuivi de la même manière en Italie, donc en Allemagne, en Flandre, en Champagne, il y a des grandes expéditions qui sont menées contre eux, ou bien des grands bûchers qui sont allumés pour brûler de nombreux cathares à la suite d'une condamnation, un auto d'affaires qui est organisé par les pouvoirs publics. Voyez. Mais ça se trouve dans toute l'Europe. Oui. C'est un phénomène assez extraordinaire. Alors, il est surtout connu chez nous parce que c'est devenu un peu notre flambeau, notre blason identitaire.
À cause, grâce au comte de Toulouse.
Pardon ?
À cause, slash, grâce au comte de Toulouse.
Grâce au comte de Toulouse et grâce à l'assimilation aussi de la situation des Cathares dans notre région, dans notre Languedoc, dans notre pays des comtes de Toulouse, assimilation à ce que l'identité de notre terre occitane a été forgée, justement, par cette résistance. Et nous avons, tant que nous avons pu, résister à l'arrivée des Français. C'est-à-dire que c'est quand même, il faut savoir que c'est à la suite de cet épisode douloureux que le roi de France est venu s'implanter dans le Languedoc et que nous sommes devenus Français. Avant, nous n'étions pas Français, c'est-à-dire que là, nous dépendions du comte de Toulouse, et nous étions un petit peu en relation avec le roi de France, mais il n'avait pas beaucoup mis les pieds dans le sud. Et c'est à cause de la croisade des Albigeois que les rois de France, les Capétiens, ont commencé à s'intéresser à ce qui se passait en dessous de la Loire, et que malheureusement, ils y ont pris goût, et ils sont venus nous conquérir. Et ça, c'est une des conséquences de la croisade des Albigeois. Et donc, c'est pour ça que ce mouvement-là, et cette défense des Cathares, c'est en tout cas mon histoire personnelle, c'est devenu pour nous un peu l'affirmation de notre identité occitane, de notre drapeau et de la défense de nos libertés, en quelque sorte, perdues. Ouais, c'est un peu ça.
Et alors justement, comment ça s'est fini? Alors vous allez me dire très mal, mais pour eux, vous nous parlez des châteaux, des grandes forteresses, ça n'avait pas lieu que dans des simples maisons avec...
Eh bien, c'est-à-dire que c'était les seigneurs locaux qui étaient les protecteurs. C'est le cas à Caussade. Là, on vient de faire des fouilles importantes sur le site. Malheureusement, elles n'ont pas été poursuivies comme il faut, mais enfin, on a fait des fouilles on a redécouvert l'emplacement du château des seigneurs de Caussade, tout près de la place à côté de l'église de Caussade actuelle. Bon, eh bien, c'est eux qui chapeautaient pour la région. C'est-à-dire que c'est les seigneurs locaux qui, à Caylus, à Caussade, donc, partout, qui a pris la Roque, etc., chaque seigneur local et sa famille était en quelque sorte le promoteur. Alors les châteaux de notre région, ils ont été démolis, il n'y en a plus aucune trace. C'est-à-dire qu'il y en a quelques-uns qui restent là-bas dans le quartier quand on monte vers Caylus ou ailleurs, mais dans notre région, il n'y a plus beaucoup de châteaux qui sont restés sur place. Mais il faut imaginer qu'il y avait des châteaux partout, bon, même si ce n'était pas des grands châteaux, c'était des grandes salles, on appelait ça à l'époque, c'est-à-dire des maisons qui avaient quand même un peu de pierre par rapport au reste des autres maisons, elles étaient mieux bâties et plus élevées. Voilà. Et donc, chaque seigneur local protégeait, en quelque sorte, ses familles et résistait. Voilà.
Et le catharisme, je ne sais pas si on peut dire ça, oui? L'hérésie
albigeoise. Ah, le mot cathare, oui, catharisme, oui, c'est le nom qu'on donne habituellement au nom du mouvement religieux en question, que l'Église catholique a considéré comme une hérésie, mm-hmm. c'est-à-dire comme une déviation qu'elle ne pouvait pas supporter dans la doctrine, et que donc, comme on ne pouvait pas accepter la tolérance à l'époque de quelqu'un qui vous fasse de la concurrence sur le plan religieux, on a essayé de les éliminer et on les a brûlés. Ouais.
Ont-ils des signes distinctifs, une architecture particulière, des signes de reconnaissance, outre la langue utilisée qui est l'occitan et donc non pas le latin comme
la religion catholique ? Ah oui, tout à fait. La langue religieuse, oui.
Et niveau architecture, par exemple, vous parlez des châteaux ?
Ah non, on n'a rien. On n'a aucun bâtiment. D'abord, il n'y avait pas d'église. Première, il n'y a pas de bâtiment cathare, en ce sens qu'il n'y avait pas de lieu de culte. La seule chose qu'ils avaient, c'était des maisons. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de certaines villes, comme on le sait à Villemur-sur-Tarn, par exemple, mais on peut l'imaginer à Montauban, on peut l'imaginer ailleurs, à Rabastens, voilà. On sait qu'il y avait peut-être 5-6 maisons, qui étaient comme des petits couvents dans lesquels les gens se retrouvaient, et surtout pour les femmes, et qui vivaient là, comme des religieux ou des religieuses, dans une petite maison, comme on voit quelquefois encore dans notre quartier. On a connu des petites communautés religieuses, par exemple, à Caussade ou bien à Négropolis, on peut avoir une petite communauté religieuse, voilà, de 5 ou 6 religieuses, etc. À l'époque, c'était plus nombreux, il y avait une quinzaine, une vingtaine dans ces maisons, des fois, bon, et qui vivaient comme des religieux et des religieuses. Voilà. Mais il n'y a plus aucun bâtiment, il n'y a rien qui est resté. Mmh. Et on n'a non plus aucun signe religieux. C'est-à-dire que le catharisme est une religion qui est sans représentation possible religieuse. C'est-à-dire quand on la croit, contre tous les symboles, il n'y a pas de représentation, il n'y a pas de saint, il n'y a rien. Donc, si vous voulez, on ne peut pas avoir d'art cathare. On ne peut pas avoir de représentation de quoi que ce soit. Voilà.
Ça vient d'où le mot cathare ?
Ah, c'est très discuté. Enfin, il semblerait que ça vienne dès le départ, finalement, d'un mot grec qui veut dire katharos, qui veut dire pur, et qui désignait déjà depuis l'époque très ancienne des origines chrétiennes, des groupes religieux qui essayaient de vivre plus saintement que les autres, mais il s'est croisé avec un autre mot qu'on trouve en Allemagne, parce que le premier document qui nous parle de la chasse au cathare, il est de 1142, et c'est un document qui a été rédigé sur les rives du Rhin, et où le mot « katharos » rappelle un mot allemand, du vieil allemand, qui veut dire « ketzer », qui rappelle le chat. Et assez curieusement, les chats étaient symboliques à l'époque du diable, surtout les chats noirs. Hein. Bon, et donc, on avait assimilé les hérétiques à des adorateurs de chats. Et donc, on a même des gravures qu'on trouve dans l'art chrétiens, hein, essayant de représenter des sectes ou des réunions d'hérétiques, où l'on voit des gens dans une sorte d'église, si vous voulez, dans une sorte de lieu de culte, avec un chat qu'ils sont en train d'adorer. Alors, du coup, on a pensé que peut-être que la vraie étymologie du mot tel qu'il est revenu au XIIe siècle en Allemagne, c'est peut-être le vieux allemand Ketzer qui veut dire chat. Mais enfin, bon, vous avez le choix entre les deux. Voilà.
Eux s'appelaient en tout cas non pas les cathares, ni les hérésies albigeoises, ni les albigéistes, mais bien la religion des bonhommes.
Oui, l'albigéisme, oui.
C'est les bonhommes, ils s'appelaient les bonhommes.
Alors eux s'appelaient comme ça. Eux, ils s'appelaient ni cathares, ni albigeois. Ils s'appelaient bons hommes et bonnes femmes, si vous voulez. C'était le titre honorifique que l'on donnait à ces gens-là, et qui était un titre qui était utilisé pour d'autres choses. On l'utilisait aussi en droit, pour désigner des personnes qualifiées, c'est-à-dire des personnes respectables, qui avaient une certaine notoriété et qui étaient dignes de respect. Et donc, de les appeler bons hommes ou bonnes femmes, si vous voulez, c'était une manière. Et alors, il y avait une autre désignation, c'est assez curieux. Ils s'appelaient aussi vrais chrétiens, bons chrétiens, si vous voulez. Ils s'appelaient « nous sommes chrétiens et nous sommes des vrais et bons chrétiens ». Ce qui a fait que, assez curieusement, au XIVe siècle ensuite, de dire de quelqu'un qui était chrétien, c'est presque dire qu'il était hérétique. Et on a désigné un autre groupe d'hérétiques qui sont apparus au XIVe siècle, qu'on appelle les cagots, sur le nom de Chrestias. Et quand vous voyez le nom Chrestia donné à une famille ou à quelqu'un dans les documents de l'époque, ça voulait dire hérétique. Vous voyez, c'est très curieux l'évolution des mots quand on fait l'histoire.
On saura tout donc sur les bons hommes et les bonnes femmes, le catharisme, donc Caussade et sa région. Au temps des cathares, avec cette conférence, on le redit, c'est ce samedi à 16h30 au Récollet. C'est gratuit, organisé par l'Université populaire de Caussade et animé par vous, Jordi Passera. Vous êtes président de la Société archéologique et historique de Tarn-et-Garonne, membre titulaire de l'Académie de l'Occitan et curé dans votre paroisse. Un grand merci et à samedi.
Avec plaisir, au revoir.